avec des gens très très pauvres qui se battent pour survivre dans cette absence totale de règles et d'État. Ce qui est très frappant, c'est les villas très luxueuses. On voit des grandes villas avec des doubles tennis, piscines, etc. C'est quand même...
Les populations qui ont plus de chances d'avoir accès aux ressources, effectivement, ils se construisent des maisons, il faut la fortune. C'est vrai pour Goma, c'est vrai pour chaque ville du Congo. La plupart, c'est déjà qui sont soit à la douane, soit dans la politique, etc. Et où, effectivement, c'est
dans
déjà...
l'armée, dans la police, partout, voilà, on peut taxer.
Voilà. Et c'est ce monde-là qui a un morceau de ce qu'on peut appeler de l'État et qui utilise ce morceau d'État pour pouvoir s'enrichir, et c'est ce qui se passe.
Mais voilà. on a aussi quand même des humanitaires qui remplacent l'État, hein, qui se substituent à l'État, la MONUSCO également, hein, les Nations Unies qui se substituent à l'État, effectivement. Ce qui fait que l'État n'a pas lieu de se constituer, puisqu'il y a organisation non gouvernementale, c'est effectivement, organisation qui empêche la formation d'un véritable gouvernement, d'un véritable État.
Pour le cas du Congo, c'est ça aujourd'hui.
Oui,
effectivement.
Au fond, si Frantz Fanon revenait, il verrait là sans doute une forme nouvelle du colonialisme.
Je vais vous donner un exemple pour un peu appuyer ce que je viens de dire. Parce que sinon, on peut dire que nous sommes un peu cyniques, parce que, etc. Ils sont en train de faire du bon travail, d'accord. Un, c'est eux qui peuvent assurer le transport interne entre les villes. C'est eux qui ont les avions pour le faire. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas des individus. En même temps, c'est eux qui quadrillent militairement la zone qu'ils contrôlent. Mais en même temps aussi, c'est eux qui donnent les orientations politiques, les orientations sécuritaires au niveau national. Donc, dans ce sens-là, ils ont un pouvoir énorme. De là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir l'émergence d'un gouvernement local pensé, concerté, inventé et forgé par les locaux face à un tel pouvoir externe? Ça, je ne pense pas, effectivement.
Il faudrait introduire, si ce n'est déjà fait, la notion de crime économique. Parce que il y a le crime contre l'humanité. D'ailleurs, le crime contre l'humanité est une expression qui a été inventée par un voyageur, un observateur venu au Congo à la fin du 19e siècle, qui s'appelait George Washington Williams, qui était un noir américain et qui était venu voir ce qui se passait là avec un préavis plutôt favorable. Mais quand il a vu ce qu'il a vu et ressenti ce qu'il a ressenti, il a eu ce mot, il s'agit d'un crime contre l'humanité. On lui attribue la création de cette expression. Mais aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il s'agissait d'un crime contre l'humanité de nature économique. Il y a quelque chose, et si on établit cette notion, qui peut avoir une dimension tout à fait juridique, alors il faudra impliquer les multinationales, les grandes entreprises, les grandes filières, et non pas seulement les petits délinquants locaux, qui sont des assassins, bien évidemment, mais c'est toute une filière. Et c'est pas mal d'aller vers cette notion, pas seulement le crime contre l'humanité au sens militaire, au sens violent, mais aussi au sens économique du terme.
Est-ce que l'exploitation minière favorise les groupes armés? Est-ce que les groupes armés continueraient d'exister et d'agir sans les bénéfices qu'ils tirent de l'exploitation minière, sans l'argent que ça leur apporte pour leur fonctionnement?
D'abord, ici, le Nord Kivu, on n'a jamais été une zone minière en tant que telle. La zone minière, c'était le Katanga, c'était le Kasai, c'était quelques régions de l'or dans le Maniema, dans l'Ituri, mais nous n'étions pas une province à vocation minière du tout. On était beaucoup plus une province qui faisait de l'élevage et de l'agriculture. Donc, le phénomène des mines commence effectivement dans la deuxième rébellion du RCD, autour de 2000, avec le boom du coltan. Et c'est à ce moment-là que les mines ont commencé à jouer un rôle important ici, dans la ville de Goma. Mais avant, non. Avant, ce n'était pas une ville minière. Maintenant, la rébellion qui était basée ici a commencé effectivement à maximiser ses recettes en essayant de s'impliquer dans les minerais et dans l'exploitation d'abord et puis la commercialisation. De là, peut-on tirer maintenant la leçon ou bien la conclusion en disant « Écoute, maintenant, s'il y a encore les guerres ici à l'est du Congo, c'est à cause des minerais ?» Moi, je dirais que c'est une analyse simpliste parce que les causes de la guerre ici n'ont rien à faire avec les ressources naturelles. Les causes de la guerre ici ont quelque chose derrière